Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin et on est ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission autour de l'actualité locale, donc l'actualité ici en Mayenne. Jeudi on bien sûr parce que je suis avec Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Très bien, et toi?
Ça va parfaitement.
On va pouvoir dérouler un peu le programme de cette émission. Avec donc le tournoi des 4 nations de water polo qui a commencé hier, c'est à Laval et Andy est allé promener son micro justement à la piscine Saint-Nicolas pour voir un petit peu comment c'était organisé. On continue aussi notre cycle d'interviews sur les candidats aux législatives avec aujourd'hui les candidats de Debout la France. On va aussi aller du côté d'Angers et du Grand Ouest hein, pour notre cycle de reportage avec une coopérative d'activité, on verra ce que c'est. Elle s'appelle Ose. Et puis, on poursuit là aussi notre feuilleton entamé lundi avec Mathéo autour des festivals musicaux en Mayenne. Et on parle aujourd'hui du Back Home Festival. Mais d'abord, vous le savez, on va commencer par un petit tour de l'actualité. Un petit tour de l'actualité et on commence par la maternité de l'hôpital de Mayenne qui, Andy, aurait pu fermer ce matin.
Mais aussi le service de chirurgie non programmée à cause du manque de garde anesthésiste. Ces deux services auraient été fermés jusqu'au 20 juin. Finalement, affaire résolue, des médecins ont été trouvés au dernier moment et ces deux services devraient rester ouverts au moins jusqu'au 28 juin.
Une élève lavalloise met fin à ses jours en gare du Mans.
Elle était scolarisée au lycée Douanier-Rousseau et habitait au Mans. Elle a heurté volontairement un train ce mardi. Une cellule d'écoute a été mise en place pour les élèves et les accompagnateurs et un hommage pourrait être rendu dans les prochains jours.
Le monde de demain, et si on rebattait les cartes?
C'est ce que vous propose la Confédération Paysanne. Cette conférence sera animée par deux économistes, Léo Charles et Catherine Laroche-Duprat. Les thèmes abordés seront l'économie, l'agriculture et l'alimentation. Elle aura lieu ce soir à partir de 20h à la SCOMAM. Elle est ouverte à tous et gratuite.
Le libraire de Emlire à Laval, Simon Roguet, est nominé pour le prix du libraire de l'année.
Seulement 5 candidats ont été retenus pour ce prix qui est organisé par Livre Hebdo, un magazine pour les professionnels du livre. Le libraire lavallois est connu dans toute la France pour son travail en faveur de la littérature jeunesse. Il est notamment le co-organisateur du prix littéraire 9-12 ans du Centre National de la littérature pour la jeunesse. Les résultats seront annoncés le 3 juillet prochain à Angers dans le cadre des rencontres nationales de la librairie. Et vous pouvez d'ailleurs l'écouter sur nos ondes dans l'émission mensuelle « On lit quoi nous ?».
Le budget du Stade Lavallois pour la saison prochaine validé par la DNCG.
La Direction Nationale du Contrôle de Gestion, c'est un passage obligatoire toutes les saisons pour les clubs de foot professionnels, qui d'ailleurs Laval fait son retour en professionnel en montant en Ligue 2. Et la DNCG, c'est afin de surveiller leurs comptes aux clubs professionnels. Le club lavallois a présenté un budget cette année de 9,3 millions d'euros pour la saison prochaine, ce qui fait plus du double du budget en national. Cette augmentation est due aux principaux partenaires qui ont augmenté leur participation, comme Lactalis, Lucas, Actual ou encore Gruau.
Jordi Weiss, le boxeur lavallois, connaît enfin le nom de son prochain adversaire.
Il affrontera le Vénézuélien Ivan Matute qui compte 30 victoires sur 38 combats professionnels, tandis que le Mayennais en compte 28 en autant de combats. Le duel se déroulera le 17 juin prochain à l'espace Mayenne et ce sera aussi l'occasion pour Steve Bertin, le nouveau licencié du Stade Lavallois, de faire son premier combat professionnel.
Un tournoi de water polo féminin actuellement à la piscine Saint-Nicolas à Laval.
Pour préparer les championnats du monde qui auront lieu à partir du 20 juin au Japon, les 4 nations présentes sont donc la France, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Thierry Pratt, chef de service des piscines de Laval Agglomération, nous en dit un peu plus sur l'organisation de ce genre de compétition internationale sur le territoire.
Alors c'est la première année qu'il se fait sur le territoire de Laval. C'est un partenariat qu'on a développé avec la Fédération Française de Natation dans le cadre du développement du water polo féminin, puisque ici sur Laval nous avons une particularité, nous avons créé ce qu'on appelle un centre d'accession à la formation pour le water polo féminin mais aussi pour la natation course qui va ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2022. Alors c'est un tournoi qui regroupe parmi les 6 à 7 meilleures équipes du monde avec le Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et la France. La France qui est sur sa phase de préparation pour les Jeux Olympiques. Nous-mêmes, centre de préparation aux Jeux. Et l'intérêt, donc, en effet, c'est de découvrir aussi toute la qualité de ce water polo féminin. Vous avez un cahier des charges qui vous est transmis par la Fédération internationale de natation et de sport amateur, la FINA. Vous avez des obligations de distance, de profondeur, de largeur, sur lesquelles, en effet, vous devez vous positionner à la fois sur l'infrastructure, donc l'accueil des joueuses, des équipes. Et puis derrière, c'est la qualité de l'hébergement, la qualité nutritive, la qualité des transports. Et puis voilà, vous avez comme ça tous les critères à remplir. Et puis une capacité aussi de vous adapter. Je prends un exemple tout simple. On organise par exemple avec une visite au musée, au Manas, au dernier moment, parce que les Canadiennes, elles ont aussi envie de voir autre chose, de la richesse du territoire lavallois. Et donc, on va aller visiter le musée. La piscine, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de trouver un équilibre entre toute notre activité, l'activité qu'on a toute l'année, le public, les activités pour les enfants, pour les adultes, pour les seniors. Et là, en effet, à ce moment-là, pendant 2h30, 3h, la piscine, alors moi, je ne parle pas de privé, je pense qu'elle est dédiée à cette activité-là. C'est grand public, c'est ouvert à tout le monde. Nous, aujourd'hui, voyez, on est en activité de très haut niveau à l'extérieur et à l'intérieur, on continue à avoir notre activité avec des enfants, des tout-petits qui venaient nager toute l'année. Bah, on n'a pas supprimé leurs cours sont toujours là. On essaie toujours, j'y tiens, parce que c'est vraiment important, c'est une volonté politique très forte de maintenir cet équilibre. Et on a la chance ici, au travers de la structure, d'avoir entre 6 et 7 bassins selon la configuration qu'on met en place. Et donc, c'est ça aussi notre richesse et notre force. On va avoir des très, très belles rencontres qui vont débuter à la fois par l'équipe de France, par les pays anglo-saxons aussi. Je pense que voilà, c'est aussi ça, à un moment donné, la richesse d'un spectacle et d'un sport aquatique qui n'a pas l'habitude, en plus d'être présenté ici sur ce territoire. Alors on va avoir des rencontres parmi les deux meilleures équipes du monde, hein, je pense entre autres au Canada par exemple et puis aux Pays-Bas, qui sont deux très très grosses nations du water polo féminin et qui là envoient en préambule les universitaires. Et puis la France qui est sur une phase de construction, je pense que ça aussi c'est important d'en parler. La France qui est sur une phase de construction, ils sont sur un très très gros travail de fond, donc peut-être qu'on n'aura peut-être pas les résultats à escompter, mais l'objectif c'est vraiment de travailler à long terme pour être sur un axe de performance très fort pour l'arrivée des Jeux, bien évidemment, à Paris en 2024. Donc Émilien Bugeaud, qui est directeur technique des équipes de France, a fait un gros travail de à la fois de sélection, de préparation avec son équipe, parce que comme vous pouvez le voir, il n'est pas seul. Il y a lui, il y a le préparateur physique, il y a la sophrologue qui est là. C'est vraiment toute une team qui est autour aujourd'hui de l'équipe de France pour préparer ses futurs Jeux.
Pour leur premier match face aux Hollandaises, les Françaises se sont imposées sur le score de 12 à 11 hier. Les matchs sont donc tous ouverts au public et gratuits. La suite dès ce soir avec France-Nouvelle-Zélande à 19h45. Et samedi, on pourra assister au match France-Canada à 11h45.
Eh oui, merci beaucoup Andy pour ce sujet. Water polo féminin, c'est vrai que c'est une première en tout cas ici pour Laval. Et donc à retrouver dès ce soir et demain matin. Et samedi matin. Et puis on va, comme je vous le disais, d'ici quelques minutes passer à notre interview autour des élections législatives avec les candidats de Debout la France. Mais tout de suite, on écoute Suzanne avec Petit Gars.
Comment tu vas leur dire, ça fait des jours que tu ressasses. Un dimanche en famille, ton père sera assis à sa place. Il te dira, ça va mon fils, t'as pas l'air, ton assiette. Alors dis-nous, ce qui cette fille que t'es fait tant tourner la tête. Entre l'entrée et le rôti, tu vomiras la grande nouvelle. Tu répondras,
papa cette fille c'est Samuel.
Mamie qui règne au bout de la table dira qu'elle n'a plus d'ouïe, que tous les plans ont refroidi. Ton père devient tout blanc, t'avais prédit le scénario. Encore plus blanc que la crème qui fond sur le gâteau. Tu leur as coupé l'appétit, ils digèrent tous le gros ragot. Imaginez, le fils prodige est un homo. Ils te regardent tous comme un inconnu, planté là dans le salon. Alors c'est toi qui fais la fille ou le garçon. T'es gêné, t'as capté dans les yeux de ta mère qu'elle se demande ce qu'elle a pu louper pour faire un fils pédé.
Plus tard, c'est trop petit. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est
pas d'un type comme toi, je veux pas d'une tapette sous mon toit. Dégage, va te faire soigner. Surtout ne reviens pas, tire à tourner dans des boîtes à pédales, dans des backrooms sales. Je te passe les détails, là-bas tu verras le sida. Et plus à la mode que Madonna, tu finiras en string, à danser sur un char, à gueuler avec une bande de folles que t'es fier d'avoir une tare. Et moi j'ai trop honte, tu m'as sali, ne me dis pas, t'as pas choisi. Des baffes en plus auraient servi, mon fils est mort aujourd'hui. Tu croiseras des gendarmes qui traiteront de petites baltringues, des anciens potes qui se demandent si tu les matais à l'époque. Une foule en t-shirt rose et bleu qui te regardera comme un lépreux. Fais pas d'enfant, c'est contagieux, pense à ce que dira Dieu. Tu te feras passer à tabac, tabasser sur le boulevard gratuitement par trois lascars. T'es comme une clope sur le trottoir. Petit gars, reste droit sous le poids de la bêtise. Petit gars, n'écoute pas ce que ces gens disent. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, tu te fais petit. Hey. Tiga, y'a rien qui cloche chez toi, t'es amoureux, c'est pas un crime. Tiga, t'es caché dans le noir, dans le placard, c'est trop petit.
C'était Petit Gars, Suzanne, dans la JT du local, issu, donc titre issu de son album Toy Toy, est ressorti en 2021. Et tout de suite, dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives. Et oui, donc, puisque nous nous rendons aux urnes ce dimanche. Et aujourd'hui, c'est le septième volet de nos interviews des candidats en Mayenne, toujours réalisé avec Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne.
Voilà, on arrive vraiment dans la toute dernière ligne droite pour ces interviews que l'autre radio et Radio Fidélité Mayenne sont heureuses de proposer à nos auditeurs pour mieux connaître ceux qui veulent siéger à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, c'est Debout la France qui se présente devant nous avec vous, Jean Bel de Jessé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes candidat sur la deuxième circonscription. Aurait dû être présent avec vous, mais pour des problèmes de contraintes d'emploi du temps, Claudine Chartier, qui est candidate sur la troisième circonscription, et puis Frédéric Sicot, qui est sous la bannière des Patriotes, oui, avec Florent Philippot, mais aussi avec le soutien de Debout la France, et qui, lui, se présente sur la première circonscription. Et puis, il y a aussi quelqu'un qu'il faut nommer quand même, c'est Siegfried Reeves, qui se proclame comme étant soutenu par Debout la France, mais dont vous n'avez absolument aucune nouvelle.
Ah, oui, à vrai dire, je n'ai pas vu ces affiches ni ces interviews. Parce que une chose est
nous non plus on n'a pas réussi à le contacter en fait. Hein.
Oui, chose est d'avoir l'étiquette, je me rappelle plus le libellé, mais que donne la préfecture, hein, et qui est la nôtre et celle des patriotes. Autre chose est d'être soutenu par Debout la France. Mais a priori, celui qui est soutenu par Debout la France, c'est Eric Sicot. Des patriotes, bon. Puisque, enfin, nous
c'est
avons...
C'est une union entre...
Oui, entre alors, c'est un accord électoral pour se répartir les circonscriptions, pour ne pas se présenter les uns contre les autres, mais chacun des partis garde sa totale indépendance. Hein. Mais il y a, bien sûr, un soutien réciproque, hein, parce que le but de l'opération, c'est tout de même de faire que les sympathisants de chacun des deux partis votent pour l'autre, quoi. Hein, il y a de fortes similitudes entre nos deux partis, mais enfin, il y a aussi des nuances. Hein.
Alors justement, on va peut-être rentrer dans ces similitudes, pardon, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, hein, oui, on se permet d'avancer, oui, et peut-être on va s'intéresser tout d'abord au volet économique Marie.
Qui fait partie, effectivement, on le sait, des priorités en ce moment dans les débats. En regardant justement le programme pour les législatives de Debout la France, donc porté par Nicolas Dupont-Aignan, il y a cet objectif de création d'un million d'emplois. Alors, annoncé comme ça, pourquoi pas? Comment justement seraient financés et créés ces postes?
Oui. Alors, pour le financement, Nicolas Dupont-Aignan, le financement de toute mesure, et notamment ce genre de mesure, compte beaucoup sur la lutte contre la fraude. Hein, mais bon, si vous voulez, de toute façon...
Contre la fraude fiscale, contre la fraude aux aides,
sociale, et donc il a écrit un livre sur la question... qui s'appelle « Où va le pognon ?» Et donc, s'il avait été élu président de la République, ça aurait été un axe important de son action. Bon, là, nous nous présentons aux législatives, mais il est fort peu probable que nous fassions partie d'une majorité à l'Assemblée nationale. Nous serons là pour soutenir les mesures qui vont dans ce sens, hein, et d'une manière générale, toute bonne mesure, mais
on
n'aura
pouvoir,
pas le pouvoir qu'à l'exécutif, hein, s'il en a vraiment la volonté, de lutter contre la fraude. Et...
Donc c'est ça en tout cas la priorité, lutter contre les types de fraudes. J'ai lu aussi que il y avait l'idée d'indexer les salaires sur l'inflation. Ça aussi c'est un axe fort.
Oui, tout à fait. Et les retraites. Parce que les retraites donc n'ont pas été indexées depuis un certain temps déjà, hein, et donc ça commence à prendre un certain retard et qui devient vraiment préoccupant avec l'érosion monétaire. Je préfère le terme d'érosion monétaire que d'inflation, parce que l'inflation c'est l'augmentation de la masse monétaire, et l'érosion monétaire c'est l'effet de l'inflation, enfin l'effet traditionnel, hein. Voilà. Alors, quant à indexer le SMIC, ça va de soi. Mais justement, concernant ce pouvoir d'achat, une autre chose qu'avait préconisé Nicolas Dupont-Aignan, c'était de mettre la TVA zéro sur un certain nombre de produits de base. Alors, il y a toutes sortes d'autres recettes, parce que cette érosion monétaire subite, hein, pour ne pas dire inflation, et ça oblige le gouvernement, quel qu'il soit, à prendre des mesures ou des mesurettes de circonstances. Hein, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tombe à tous. Et donc, il n'est pas pensable de laisser... c'est le chèque je ne sais plus quoi, le chèque... voilà.
Donc là, pareil, je vois le temps qui file aussi. Ça va être l'occasion justement aussi, parmi l'inflation, ou le terme que vous employez, en tout cas, il y a aussi la hausse du prix de l'énergie, entre autres, et ça rejoint aussi un autre thème plus global autour de l'environnement. Quelles sont les mesures prioritaires pour vous par rapport à l'écologie, par rapport au développement durable?
Il ne vous a sans doute pas échappé que nous sommes très hostiles. Alors c'est un aspect particulier de la question, mais à l'éolien industriel, qui présente toutes sortes d'inconvénients par rapport à la santé des hommes et des animaux, à la biodiversité, à la beauté du paysage et donc au tourisme et à la vie de nos campagnes, sans parler de la baisse du prix des maisons.
Donc pas d'éolien, mais du coup quelle autre source d'énergie?
L'autre c'est l'énergie nucléaire. La France était très bien positionnée là-dessus. Alors ce qu'il faut bien considérer, c'est que de très grands progrès scientifiques sont en cours par rapport à l'énergie nucléaire. Et donc, et ça c'est un autre axe de la qu'a toujours souligné Nicolas Dupont-Aignan, c'est de favoriser la recherche la recherche dans tous les domaines, mais en particulier dans celui-là. Et je sais qu'il y a de très grosses avancées sur le nucléaire actuellement par rapport à ce qui existait à l'époque, il y a 50 ans, quoi.
Donc le nucléaire, c'est la voie pour l'environnement.
Oui, c'est ça. Oui, il faut que... alors, l'un des avantages du nucléaire, c'est que sur le plan du bilan carbone, eh bien, c'est bon. Alors, ceci étant, le bilan carbone, enfin, le rôle que l'on donne au CO2, au gaz carbonique, est à mon sens un petit peu exagéré dans cette histoire de changement climatique, parce que le gaz carbonique ne représente que 0,04 ou 0,044% de l'ensemble des gaz qui composent notre atmosphère, alors que c'est un gaz indispensable à la vie végétale et donc à la vie tout court, et qui a un tout petit peu plus de gaz carbonique qu'avant. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez.
Est-ce qu'il faut qu'on comprenne, pardon parce que le compteur tourne. Que vous êtes plutôt ce qu'on appelle climato-sceptique?
Oui, je suis climato-sceptique modéré, oui. Hein, parce que je ne nie pas que l'augmentation du gaz carbonique puisse avoir une incidence sur le climat, mais c'est sans doute relativement minime par rapport à d'autres facteurs contre lesquels nous ne pouvons rien. Hein, et
par exemple,
des facteurs d'ordre astronomique. Hein. Et autre chose, c'est que en France, nous sommes très vertueux sur le plan du carbone. En fait, le gros problème vient de pays comme la Chine. Mais l'autre inconvénient des éoliennes, c'est que, du fait notamment de leur intermittence, elles nécessitent d'augmenter les centrales au charbon et donc d'où pollution.
Bien. Merci beaucoup pour cet avis, Monsieur Bel de Gessé. Le dernier point sur lequel on voudrait vous interroger, c'est la santé, l'accès aux soins pour tous.
Oui. La santé, c'est la dégradation de l'organisation du système hospitalier en France.
Alors, sur le constat, je pense que tout le monde est d'accord. Pardon.
Oui,
et
mais
du coup,
ça, en fait,
en quelques mots, les mesures.
Ouais. Hein, c'est la loi Bachelot. C'est la loi Bachelot avec les ARS et puis cette idée selon laquelle il faut que l'hôpital soit rentable, hein, alors que l'hôpital, ça doit être un service public.
Hein, alors, quelle solution aujourd'hui, du coup,
et
pour changer
ça? Il faut réintégrer les soignants déjà qui en ont été exclus sous prétexte qu'ils refusaient d'être vaccinés. Et puis il faut alors bien sûr c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et c'est dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan d'ajouter dans chaque département un hôpital de proximité ou une maternité.
Rapprocher les patients du lieu de soins.
La proximité est essentielle dans ce domaine.
Merci beaucoup pour tous les candidats qui n'ont pas forcément pu être là aujourd'hui, oui. Puisqu'il y en a sur chaque circonscription pour le parti Debout la France. Jean-Bail de Gessé, vous êtes donc candidat sur la deuxième circonscription, oui. De la Mayenne. Et on rappelle, donc sur la troisième circonscription, c'est Claudine Chartier et Cédric Sicot sur la première circonscription sous l'étiquette Les Patriotes. Merci beaucoup.
Merci.
Et demain, vendredi, on entendra les candidats, le candidat d'ailleurs en l'occurrence, Alexandre Maillard des Républicains, qui parle aussi pour Sophie Dirson pour cette huitième et dernière interview.
Et dans quelques instants, on retrouve comme tous les jeudis notre chronique Pensée locale, juste après la pause musicale avec The Tops de Pigeon Jaune.
Yeah. If I were president, man, well, first, turn up the bass and the treble. That's what I do, making all the levels rise up. Put a kid on my Camaro and pick up you on the corner of Merrill's and Highland. They call me Big Bad Tony. I want them all on my baloney. I've been lower than a shovel in Timbuktu. Now I'm moving on up the wire. I'm on the top now. I'm way up. I'm way up, I'm on the top now. Yeah, I'm way up, I'm way up, I'm way up. I was a
secretary's son in Inglewood. Now my family's eating good in downtown. I put a needle on the record out in Hollywood. Then they put me up and I never came down. I'm on the top now. I'm way up, I'm way up, I'm way up. I'm on the top now. I'm way up, I'm way up, I'm way up. I'm on the top now. I'm on the top now. I'm way up. I'm way up. I give what I was given. Now I give you about a million times. I want them all on the floor and shaking too. Wind that little honey and fly up. They call me Big Bad Johnny. I got them all on my baloney. I wanna get so high that I can't even choose. Just wind up in the scraper, sky up. I'm on the top now. I'm way up, I'm way up, I'm way up.
Top Speed John John dans l'agité du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio. 101.7 à Laval, 107.9 à Château-Gontier. Et comme chaque jeudi, on retrouve notre cycle de reportages Pensée locale réalisé avec les radios associatives des Pays de la Loire. Zoom aujourd'hui sur OSE, une coopérative d'activité et d'emploi. Basée à Angers, Nantes et Saint-Nazaire, elle regroupe des personnes pratiquant toutes sortes de métiers liés à la culture. Ils peuvent ainsi créer, s'entraider et monter des projets sur le territoire. Reportage de Radio Campus Angers lors de la première édition de Longue Vue, une journée de rencontre organisée par la coopérative.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Longue Vue. Instrument optique qui permet d'avoir une vision rapprochée des objets éloignés. C'est aussi le nom de la journée de rencontre organisée par la coopérative OSE des métiers créatifs et culturels, un pays de la Loire. Rendez-vous au 122, le tiers-lieu angevin, pour une mise au point collective de sa vision de l'avenir. Rencontre avec Clémence Ménard, cofondatrice et co-directrice de la coopérative OSE.
Pour nous, c'était l'opportunité de deux choses. Déjà, de se nourrir d'autres personnes qui font. Et on avait besoin de ça, après la crise du Covid, d'aller voir d'autres exemples inspirants de gens qui font ailleurs et de voir en miroir qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et comment nous, ça nous inspire en fait dans nos pratiques. Et on avait besoin de cette inspiration-là. Et pour cette édition, on a fait plein de commandes collectives, donc d'une création partagée, une exposition de photos. La communication a été faite en collectif aussi, avec des gens qui ne travaillaient pas ensemble avant. Et que du coup, se dire, ça devient l'opportunité de créer en collectif. Et peut-être derrière, ça donne lieu à d'autres coopérations.
Tu connais le théâtre coopératif des Pays de la Loire, hein ? T'as déjà été là ? C'est à Cholet.
En 2014, avant de créer la coopérative, il y a eu tout un travail de diagnostic sur le territoire des Pays de la Loire qui faisait état du besoin d'accompagner mieux les acteurs culturels sur du développement d'activités, notamment entrepreneuriales. En gros, concrètement, je peux être artiste, c'est bien, mais comment j'en vis ? Comment je ne reste pas dans la précarité ? Et du coup, la coopérative d'activité d'emploi apportait, on va dire, une réponse là-dessus sur le fait de proposer un statut qui était entrepreneur salarié, qui permet à la fois d'être autonome, indépendant dans ses activités, et puis salarié avec la protection sociale du salariat au régime général. Et puis un autre aspect très très important, qui est la coopération, qui était de dire, on sait beaucoup des gens qui sont isolés, des très petites structures, et que cette dimension du collectif, elle est importante parce qu'elle peut permettre de mutualiser des fonctions, donc là par exemple la comptabilité de la gestion, de mutualiser des espaces, de mutualiser des projets.
OSE, c'est une coopérative basée à Angers, Nantes et Saint-Nazaire. Les synergies qui se nouent en son sein permettent le développement de l'économie culturelle locale. Séverine Huchin, entrepreneuse salariée et associée à la coopérative, a pu enrichir son activité avec deux autres membres de OZE.
On accompagnait et on accompagne encore des territoires sur leur dimension de participative, c'est-à-dire les collectivités sur la démarche participative. Et en fait, seul, je ne l'aurais pas fait. Et c'est parce qu'il y avait d'autres expériences. Et du coup, on a vraiment construit à partir de ça et on a pu diffuser notre offre, on a pu accompagner des gens avec une force beaucoup plus grande que si j'avais été toute seule, par exemple, en auto-entreprise. Comme j'accompagne les collectifs, le fait de vivre le collectif de l'intérieur au sein de OZE, ça me nourrit d'autant plus pour pouvoir accompagner les autres. Et j'accompagne des lieux qui ont vraiment un impact sur le territoire fort. Voilà, à OZE, on a un impact sur le territoire et on accompagne des gens pour qu'ils en aient encore un en plus, quoi. C'est important aussi de pouvoir montrer du soutien avec toutes les compétences possibles pour pouvoir que ces projets émergent et fassent bouger les territoires.
Il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait une formation à Paris, je ne sais pas si tu as vu ça, sur développement de projets culturels en lien...
Clémence Ménard, co-directrice de OZE.
La réflexion sur nos manières d'être sur les territoires, elle se passe quand même toujours en lien avec des lieux. Sur Angers, on est dans un lieu qu'on partage notamment avec le réseau de l'économie sociale et solidaire et on est sur un projet depuis quelques années de lieux partagés, de tiers-lieux dédiés à l'économie locale qui mêlerait pas seulement des gens du milieu culturel. Sur Nantes, on est dans un tiers-lieu qui s'appelle le Grand Bain avec l'ensemble des coopératives d'activités d'emploi qui est du coup un lieu d'hébergement des activités, des équipes, mais aussi un lieu d'animation avec une galerie, boutique, avec un événementiel. Ça devient aussi des lieux d'expérimentation, enfin des lieux d'interconnaissance, bien sûr, parce que c'est ça qui fait qu'on a envie de bosser ensemble, mais aussi des lieux d'expérimentation sur, bah, tiens, à midi, il va y avoir quelqu'un qui, bah, voilà, qui fait de l'alimentation durable comme Sandrine avec la cuistot mobile, qui va venir le proposer, les gens qui vont le tester. Et du coup, le collectif va permettre comme ça de tester les activités de chacun, mais aussi les développer, d'en parler, de diffuser aussi les créations de chacun.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur oze-cop.fr.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Sophia Pavanini pour Radio Campus Angers.
Que vous pouvez réécouter comme tous les autres d'ailleurs sur l'autreradio.fr. Hein, on le rappelle, hein, donc ce cycle de reportage, ça s'appelle Pensée locale et c'est à retrouver tous les jeudis dans cette émission vers 12h40. Hein, on n'est pas à une minute près, mais 12h40 à peu près, c'est l'heure de Pensée locale. Mais on avance évidemment dans cette émission et voilà le 4e épisode du feuilleton sur les festivals musicaux mayennais avec toi, Mathéo. Et on se rend aujourd'hui du côté du Back Home Festival pour leur 4e édition.
Et oui Marie, le festival basé à la Baconnière se passe le 17 et 18 juin prochain. J'ai donc rencontré Simon, membre de l'association organisant le festival, et Corentin, le programmateur, pour parler du Back Home Festival qui a pour but de rassembler toutes les générations.
Bah le Back Home, c'est un festival de campagne, donc comme il y en a plusieurs en Mayenne, c'est vrai, mais... On essaye de mélanger toutes les générations qu'il peut y avoir à la Baconnière, donc aussi bien en tant que dans les bénévoles que dans les festivaliers. Donc, il va y avoir tous les membres de l'association qui ont entre 20 et 26 ans. Et puis après, il y a les parents aussi qui vont venir aider. Et puis il y a les agriculteurs du territoire. Et puis il y a les. Voilà, il y a un peu toutes les connaissances de la Baconnière qui viennent aider. Et au moment du festival, il y a des jeunes de toute la Mayenne et même un peu plus loin. Et puis il y a aussi des adultes plus âgés, on va dire, pour être poli, qui viennent sur le temps du festival. Donc voilà.
Tout à l'heure, vous me parlez des agriculteurs, des personnes de la commune qui s'investissent. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment toute la commune qui se rassemble et qui vraiment s'investit dans le projet comme si c'était le sien ?
Bah, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire. Je pense qu'on y arrive plutôt bien, parce que même au niveau des commerçants de la Baco, on essaye de travailler avec eux pour les aider, puis eux nous aident. Donc, c'est du donnant-donnant, voilà. Et ouais, on peut dire que toute la Baco s'investit.
Le samedi après-midi, on essaye de mobiliser pas mal d'associations de la Baconnière et des alentours. Il y aura par exemple un mur d'escalade, c'est géré par l'assaut de l'escalade. Pétanque, palais, pareil, géré par les associations. On essaye de mutualiser les moyens, puisqu'il y a une fête de l'école le lendemain, donc on mutualise aussi les moyens avec les parents d'élèves. Donc c'est vraiment, on essaye de mobiliser toutes les assos et tous les habitants pour faire un événement commun, quoi.
On essaye d'avoir une programmation assez éclectique, donc on va dire grossièrement, on pense en début de soirée plus aux familles, aux adultes, et puis en fin de soirée, on va penser plus aux jeunes. Donc début de soirée, ça va être un peu plus rock. Là, cette année, on a un groupe de cumbia qui vient, donc ça va être bien cool. Puis après, milieu de soirée, on passe plus sur du rock et de la pop, et après, on finit avec du rap, de l'électro ou de la techno.
Et donc, le festival commence le vendredi 17 juin à 19h15 avec La Chimba, suivi de Madame. Les réservations se font sur le site internet du Back Home Festival ou bien sur place.
Merci beaucoup Mathéo pour ce nouvel épisode de notre série cette semaine consacrée au festival en Mayenne. Et demain Mathéo, on part de quel côté ?
Si je me trompe pas, on part au foin de la rue.
Au foin de la rue évidemment, qui auront lieu les 1er et 2 juillet. Merci beaucoup, merci Mathéo, merci Andy pour cette émission, merci à tous les deux.
Et bah, merci Marie. À la semaine prochaine.
Et on se retrouve effectivement demain pour Mathéo, à la semaine prochaine pour Andy. Évidemment, vous restez avec nous, hein, puisqu'à 19h, il y aura le masque et la tronçonneuse autour du nucléaire et cinéma. Un avenir radieux, c'est en tout cas le titre de l'émission. Et puis à 21h, ce sera suivi de Quand la musique est bof pour bande originale de film, avec celle ce soir du film Face d'Antonia Bird. Nous, on se retrouve demain à 12h15 pour une nouvelle émission, l'Agité du local. Je vous souhaite une très belle journée.